Chapitre 7 Le nœud cerise. Je ne crois d'une manière absolue ni à la destinée ni à mes instincts, et je suis pourtant forcé de croire à quelque chose qui semble une combinaison de l'un ou de l'autre, à une force mystérieuse qui est comme l'attraction de la fatalité. Il se fait dans notre existence comme de grands courants magnétiques que nous traversons quelquefois sans être emportés par eux, mais où quelquefois aussi nous nous précipitons de nous-mêmes parce que notre moi se trouve admirablement prédisposé à subir l'influence de ce qui est notre élément naturel, longtemps ignoré ou méconnu. Comme nous sommes entraînés sur cette pente irrésistible, il semble que tout nous aide à en subir l'impulsion souveraine, que tout s'enchaîne autour de nous, de façon à nous faire nier le hasard, et enfin que les circonstances les plus naturelles, les plus insignifiantes dans d'autres moments, n'existent à ce moment donné que pour nous pousser vers le but de notre destinée, que ce but soit un abîme ou un sanctuaire. Voici le fait qui me parut longtemps merveilleux et qui ne fut autre chose que la rencontre d'un fait parallèle à celui de mon ennui et de mon inquiétude. Bon Venturino était marié non loin de la frontière, du côté de Briançon, à une jeune et jolie femme dont il était séparé assez souvent par l'activité de sa profession. Je lui dis que je voulais aller du côté de la France et je le voulais parce qu'il s'agissait pour moi de prendre la route diamétralement opposée à celle de Milan et aussi un peu parce que j'avais quelques renseignements vagues sur le passage récent de Celio dans la contrée que je parcourais. Mon Venturino vit que je ne savais pas bien où je voulais aller, et comme il avait envie d'aller à Briançon, il prit naturellement la route de Suse et d'Exili, traversa la frontière avec la Doire, et me fit entrer dans les départements des Hautes-Alpes par le mont Genèvre. Comme nous approchions de Briançon, il me demanda si je ne comptais pas m'y arrêter quelques jours, du ton d'un homme décidé à m'y contraindre. Et comme j'hésitais à lui répondre avant d'avoir bien pénétré son dessein, il m'annonça que son plus jeune cheval était malade, qu'il ne mangeait pas et qu'il craignait bien d'être forcé de voir un vétérinaire pour le faire saigner. Je descendis de voiture et j'examinai le cheval. Il avait l'œil pur, le flanc calme, il n'était pas plus malade que l'autre. « Mon ami, dis-je à Maître Volabou, c'était le nom de mon voiturin, je te prie d'être sincère avec moi. Tu cherches un prétexte pour t'arrêter, et moi je n'ai pas de raison pour t'attendre. Je ne tiens pas plus longtemps à ton voiturin que tu ne tiens à ma personne. Que j'arrive à Briançon, c'est tout ce que je demande. » Là, je penserai ce que je veux faire et j'aurai sous la main tous les moyens de transport désirables. Si tu t'obstines à me laisser ici, nous n'étions plus qu'à 5 lieues de Briançon. Je m'obstinerai peut-être de mon côté à le faire marcher, car je t'ai pris pour 8 jours. Allez, sois donc franc si tu veux que je sois bon. Tu as ici aux environs une affaire de cœur ou d'argent. Et c'est pour cela que ton cheval ne mange pas. » Le brave homme se mit à rire, puis il secoua la tête d'un air mélancolique. « Mais je ne suis plus de la première jeunesse, dit-il. Ma femme a 18 ans, et j'aurais été bien aise de la surprendre. Elle ne demeure qu'à une toute petite lieue d'ici, au désert. Par la traverse, nous y serons dans une demi-heure. Le chemin est bon, et puisque... vous aimez à vous arrêter n'importe où. Pour marcher au hasard dans la neige, vous verrez là un bel endroit et de la belle neige. Le diable m'emporte. Nous repartirions demain matin et nous serions à Briançon avant midi. Bon, alors j'ai été franc. Voulez-vous être bon enfant ? Oui, puisque je t'ai fait moi-même cette condition. Va pour les désertes. Le nom me plaît et la traverse aussi. J'aime assez les paysages qu'on ne voit pas, des grandes routes. Mais s'il te prend fantaisie, mon coron père, de rester plus longtemps avec ta femme, si ton cheval recommence demain à ne plus manger. Vous voulez-vous vous fier à la parole de l'ancien militaire, mon bourgeois? Nous repartirons ce soir, si vous voulez. Je veux me fier, répondis-je. Allez, en route. Où cet homme me conduisit, tu le sauras bientôt, cher lecteur, et tu me diras là, dans l'accès de flânerie bienveillante qui me poussa à subir son caprice, s'il n'y a pas quelque chose qu'un homme plus impertinent que moi eût pu qualifier d'inspiration divine. D'abord, il ne m'avait pas trompé, le brave Volabou. Le paysage où je me fis pénétrer avait un caractère à la fois naïf et grandiose qui s'empara de moi, d'autant plus que je n'avais pas compté sur le discernement pittoresque de mon guide. Sans doute, c'était son amour pour sa jeune femme qui lui faisait aimer ou mieux comprendre instinctivement la beauté du lieu qu'elle habitait. Il voulut reconnaître ma complaisance en exerçant vers moi les devoirs de l'hospitalité. Il possédait là quelques morceaux de terre et une maisonnette très propre où il me conduisit. Et quand il eut trouvé sa jeune ménagère au travail, bien gaie, bien sage, bien pure, cela se voyait à la joie franche qu'elle montra en lui sautant au cou, il eut sorte de fête qu'il me fit. Ils se mirent en quatre, sa femme et lui, pour me préparer un meilleur repas que celui que j'aurais pu faire à l'auberge du hameau, et comme je leur disais que tant de soins n'étaient pas nécessaires pour me contenter, ils jurèrent naïvement que cela ne me regardait pas, c'est-à-dire qu'ils voulaient me traiter et m'héberger gratis. Je les laissais à leur fricassée entremêlée de doux propos et de gros baisers pour aller admirer le site environnant. Il était simple et superbe. Des collines escarpées, servant de premier échelon aux grandes montagnes des Alpes, toutes couvertes de sapins et de mélèzes, encadraient la vallée et la préservaient des vents du nord et de l'est. Au-dessus du hameau, à mi-côte de la colline la plus rapprochée et la plus adoucie, s'élevait un vieux et fier château, une des anciennes défenses de la frontière probablement, demeure paisible et confortable désormais, car je voyais au ton frais des châssis de croisées en bois de chêne encadrant de longues vitres bien claires que l'antique manoir était habité par des propriétaires fort civilisés. Un parc immense, jeté noblement sur la pente de la colline, et masquant ses froides lignes de clôture sous un luxe de végétation chaque jour plus rare en France, formait un des accidents les plus heureux du tableau. Malgré la rigueur de la saison, nous étions à la fin de janvier et la terre était couverte de frimas, la soirée était douce et riante. Le ciel avait ses tons roses vifs qui sont propres au beau temps de gelée. Les horizons neigeux brillaient comme de l'argent, et des nuages doux, couleur de perles, attendaient le soleil qui descendait lentement pour s'y plonger. Avant de s'envelopper dans ces suaves vapeurs, il semblait vouloir sourire encore à la vallée, et il dardait sur les toits élevés du vieux château un rayon de pourpre qui faisait de l'ardoise terne et moussue un dôme de cuivre rouge resplendissant. Comme j'étais vêtu et chaussé en conséquence de la saison, je prenais un plaisir extrême à marcher sur cette neige brillante, cristallisée par le froid et qui craquait sous mes pieds. En creusant des ombres sur ces grandes surfaces à peine égratignées par la trace de quelques petites pattes d'oiseaux, j'étudiais avec attention le reflet verdâtre que donne ce blanc éblouissant auprès duquel l'hermine et le duvet du cygne paraissent jaunes ou malpropres. Je ne pensais plus qu'à la peinture et à remercier le ciel de m'avoir détourné de Milan. Tout en marchant, j'approchais du parc et je pouvais embrasser de l'œil la vaste pelouse blanche coupée de massifs noirs qui s'étendait devant le château. On avait rajeuni les abords de cette austère demeure en nivelant les anciens fossés, en exhaussant les terres et en amenant le jardin, la verdure et les allées sablées jusqu'au niveau du rez-de-chaussée, jusqu'à la porte des appartements, comme c'est l'usage aujourd'hui que nous sentons à la fois le confortable et la poésie de la vie de château. L'enclos était bien fermé, le grand mur, mais en face du manoir, on en avait échancré une longueur de 30 mètres au moins pour prendre vue sur la campagne. Cette ouverture formait terrasse à une hauteur peu considérable et avait pour défense un large fossé extérieur. Un petit escalier, pratiqué dans l'épaisseur du massif de pierre de la terrasse, descendait jusqu'au niveau de l'eau pour permettre apparemment aux jardiniers d'y venir puiser durant l'été. Comme l'eau était couverte d'une croûte de glace très forte, je fis la remarque qu'il était très facile en ce moment d'entrer dans la résidence seigneuriale des désertes, mais il me parut qu'on s'en rapportait à la discrétion des habitants de la contrée, car aucune précaution n'était prise pour garantir ce côté faible de la place. Comme le lieu me parut désert, j'eus quelque tentation d'y pénétrer pour admirer de plus près le tronc des ifs superbes et des pins centenaires dont les groupes formaient dans cet intérieur 1000 paysages aussi vrais, quoique beaucoup mieux composés, que ceux de la campagne environnante. Mais je m'abstins prudemment et respectueusement de cette témérité de peintre, en entendant venir vers la terrasse deux femmes qui, vues de près, devinrent deux jeunes demoiselles ravissantes. Je les regardais courir et folâtrer sur la neige sans qu'elles fissent attention à moi. Quoique enveloppées de manteaux et de fourrures, elles étaient aussi légères que le grand lévrier blanc qui bondissait autour d'elles. L'une me parut en âge d'être mariée, mais à son insouciance, on voyait qu'elle ne l'était pas et même qu'elle n'y songeait point. Elle était grande, mince, blonde, jolie, et par sa coiffure et ses attitudes, elle me rappelait les nymphes de marbre qui ornaient les jardins du temps de Louis XIV. L'autre paraissait encore une enfant. Sa beauté était merveilleuse, quoique sa taille me parut moins élégante. Je ne sais pas non plus pourquoi je fus ému en la regardant, comme si elle me rappelait une image connue et chère. Cependant, il me fut impossible ce jour-là et plus tard de trouver de moi-même à qui elle ressemblait. Ces deux belles demoiselles prenaient ensemble de tels ébats qu'elles passèrent sans me voir. Elles parlaient italien, mais si vite, et souvent toutes deux ensemble. Chaque phrase était d'ailleurs entrecoupée de rires si bruyants et si prolongés que je ne pus rien saisir qui eût un sens. Un peu plus loin, elles s'arrêtèrent et se mirent à briser sans pitié de superbes branches d'arbres verts dont elles firent, oh les vandales, un grand tas qu'elles abandonnèrent ensuite sur la neige en disant « Ma foi, qu'ils viennent les chercher, c'est trop froid à manier. » J'allais les perdre de vue à regret, je l'avoue, car il y avait quelque chose de sympathique et d'excitant pour moi dans la pétulance et la gaieté de ces jolies filles. Lorsqu'une d'elles s'écria « Oh bon, j'ai perdu son nœud, son fameux nœud d'épée que j'avais attaché sur mon capuchon avec une épingle. » « Eh bien, dit l'aîné, nous en ferons un autre, la belle affaire. »« Bon, mais il l'avait fait lui-même. Il prétend que nous ne savons pas faire les nœuds, comme si c'était bien malin. Il va grogner. »« Eh bien, qu'il grogne, le grognon, répliqua l'autre. » Et toutes deux recommencèrent à rire, comme rient les jeunes filles, sans savoir pourquoi, sinon qu'elles ont besoin de rire. « Oh, tiens, tiens, je le vois, mon nœud !» s'écria la cadette en bondissant vers le fossé. « Le voilà qui s'épanouit sur la neige. Oh, le beau coquelicot !» Elle arriva jusqu'au bord de la terrasse, mais au moment de ramasser le nœud de ruban rouge que j'avais fort bien remarqué, elle partit d'un nouvel éclat de rire. Une petite brise soudaine qui venait de s'élever emportait le ruban et le déposait à mes pieds sur la glace du fossé. Je le ramassai pour le rendre à la belle rieuse et ce fut alors seulement qu'elle m'aperçut et devint aussi rouge que son nœud de ruban cerise. « Pour vous le rapporter, mademoiselle, lui dis-je, je serai forcé de traverser ce fossé. Me le permettez-vous ?»«
Non, 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 ne faites pas cela, répondit l'enfant,
en qui un fond d'assurance mutine parut dominer très vite le premier accès de timidité. « C'est peut-être dangereux, si la glace ne porte pas. »« Oh, n'est-ce que cela, repris-je, c'est bien peu de chose que de courir un petit danger pour votre service. » Et je traversai résolument la glace qui criait un peu. En voyant qu'en effet il y avait bien quelque danger pour moi, car le fossé était large et profond, l'enfant rougit encore et descendit quelques marches du petit escalier pour venir à ma rencontre. Elle ne riait plus. « Eh bien, qu'est-ce que cela? Que faites-vous donc, petite sœur ?» dit l'aînée, qui venait de la rejoindre, et qui me regarda d'un air de surprise et de mécontentement. Celle-ci était déjà une jeune personne. Elle connaissait sans doute déjà la prudence. Bon, elle avait au moins une vingtaine d'années. « Bien, vous voyez, mademoiselle, lui dis-je en tendant à sa sœur le nœud de ruban au bout de ma canne, je m'arrête à la limite de votre empire. Je ne me permets pas de mettre le pied seulement sur la première marche de l'escalier. » Elle vit tout de suite que j'étais un homme bien élevé et me remercia d'un doux et charmant sourire. Quant à l'enfant, elle saisit le nœud avec vivacité et me fit signe de ne pas m'arrêter sur la glace. Je m'en retournai lentement et les saluai toutes deux de l'autre rive. Elles me crièrent « Merci !» avec beaucoup de grâce. Puis j'entendis l'aînée dire à la petite « Oh, s'il nous voyait cela, il nous gronderait !»« Sauvons-nous !» répondit l'enfant en recommençant son rire frais et clair comme une clochette d'argent. Elles se prirent par la main et partirent en courant, et en riant vers le château. Quand elles eurent disparu, je regagnai la modeste demeure de M. et Mme Bellabou, un peu préoccupé de ma petite aventure. Je trouvai mon souper prêt. J'aurais été grand gousier en personne qu'on ne m'eût pas traité plus largement. Je crois que toute la petite basse-cour de Mme Bellabou y avait passé. Je n'aurais pas eu bonne grâce à me plaindre de cette prodigalité en voyant l'air de triomphe naïf avec lequel ces braves gens me faisaient les honneurs de chez eux. J'exigeais qu'ils se missent à table avec moi, ainsi que la vieille mère de Madame Bellabou, qui était encore une robuste virago, nommée Madame Pierre Côte, et qui paraissait prendre à cœur d'une bonne gardienne de l'honneur de son gendre. Il me fallut soutenir un rude assaut pour me préserver d'une indigestion, car mon voilà Vettulino semblait décidé à me faire étouffer. Dès que je pus obtenir quelques instants de répit, j'en profitai pour faire des questions sur le château et ses habitants. « Oh, c'est bien vieux, ce château, » me dit Bellabou d'une air coupable, capable. « C'est l'aise, pas ? Oh, ça ressemble à une grande masure. Mais c'est plus joli en dedans qu'on ne croirait. C'est très bien tenu, bien conservé, bien arrangé, quoiqu'en vieux meubles qui ne sont plus de mode. Il y a des calorifères, ma foi. C'est que le vieux marquis ne se refusait rien. Il était pas très généreux pour les autres, mais il aimait bien ses as, et il passait presque toute l'année ici. » L'hiver, il n'allait qu'un peu à Paris, en Italie jamais, et pourtant c'était son pays. Et qui possède ce château à présent? Son frère, le comte de Balma, qui vient de passer marquis par le décès de l'aîné de la famille. D'un mot, il n'est pas jeune non plus, C'est le sort de notre village, on dirait, de voir sous les yeux vieilles maisons et vieilles gens. Bah, la jeunesse ne manque pas encore dans le château, dit Madame Molabou. Monsieur le nouveau marquis n'a-t-il pas 5 enfants, dont le plus âgé ne l'est guère plus que monsieur? En parlant ainsi, Madame Molabu me désignait à son mari, dont les yeux s'arrondirent tout à coup en même temps que sa bouche s'allongeait en une moue assez risible. Oh! S'écria-t-il. Monsieur de Balma a des garçons à présent. Quand je suis parti avec une fille, il n'y a qu'un mois de cela. Ben, c'est qu'il ne nous aimait pas tout apparemment, dit à son tour la vieille Madame Percote. Depuis un mois, il m'est arrivé une famille nombreuse, 2 autres filles et 2 garçons, tous beaux comme des amours. Mais qu'est-ce que ça vous fait, Bolabou? Ça me fait rien, la mère, mais c'est égal. Notre vieux marquis est diablement sournois, car je lui ai entendu dire à monsieur le curé qu'il n'avait qu'une fille, celle qui est arrivée avec lui le lendemain de la mort du dernier marquis. Eh bien, reprit la vieille, c'est qu'il n'y a que celle-là de légitime, peut-être, et que les 4 autres enfants sont des bâtards. Ça prouve pas un mauvais homme d'avoir recueilli tout ça le jour où il s'est vu riche et seigneur. Sans doute il veut les établir pour effacer devant Dieu tous ses vieux péchés. Après ça, ils sont peut-être pas à lui, tous ses enfants, observa Madame Bolabu. Il les appelle tous mes enfants, répondit la mère Pierrecotte. Et il appelle tous mon papa. Quant à savoir au juste ce qu'il en est, c'est pas facile. C'est une maison, il y a toujours eu de gros secrets, par rapport surtout à monsieur le marquis actuel. Du temps de l'autre, est-ce qu'on savait quelque chose de clair sur celui d'à présent? Que disait-on pas? Monsieur le marquis a eu un frère qui est mort aux Indes, disaient les uns. D'autres disaient au contraire. Le frère puîné de monsieur le marquis n'est pas si mort, d'ici éloigné qu'on croit, mais il a changé de nom, parce qu'il a fait des folies, des dettes qu'il ne peut pas payer, et qu'il y a bien 50 ans que monsieur ne veut pas le voir. Les uns disaient encore, il ne peut pas lui pardonner sa mauvaise conduite, mais il lui envoie de l'argent de temps en temps en cachette. Et les autres répondaient, il n'en voit rien du tout, il a le cœur trop dur pour cela. Le pire de poursuit qu'on pense. Et ne peut-on éclaircir cette histoire? Demandai-je. Personne dans le pays n'a-t-il mieux renseigné que vous? Il est étrange qu'un membre d'une grande famille sorte ainsi de dessous terre. Monsieur, dit la vieille, on peut rien savoir de ces gens-là. Moi, voilà ce que je sais, ce que j'ai vu dans ma jeunesse. Il y avait 2 frères du nom de Balma, famille piémontaise bien anciennement établie dans le pays. L'aîné était fort sage, mais pas de très bon cœur, cela est certain. Le cadet était du diable de tête, mais il n'était pas fier. Il n'avait rien à lui, et j'ai point vu d'enfant si aimable et si joli. Les Balma ont vécu longtemps hors du pays. Et un beau jour, l'aîné va prendre possession de son domaine et habiter son château, sans vouloir permettre qu'on lui fît une pauvre question, et mettant à la porte quiconque se montrait curieux du sort de son frère. Oh, cet aîné a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans, sans se marier, sans adopter personne, sans souffrir un seul parent près de lui. Bon, il est mort sans faire de testament. Comme un homme qui dit, bon, après moi la fin du monde. Mais voilà que l'on a vu arriver tout à coup le jeune homme qui a produit de bons titres et qui a hérité naturellement du titre, du château et des grands biens de la famille. Il y a au moins 2, 3 ou 4 millions de fortune. Oh, c'est quelque chose pour un homme qui était, dit-on, dans la dernière misère. Pauvre enfant, j'ai été le saluer. Oui, il s'est souvenu de moi, il était encore galant en parole, comme si j'avais 15 ans. Mais ce jeune homme, cet enfant dont vous parlez, la mère, c'est donc le nouveau marquis, dit monsieur Volabu. Diable, il n'a pas l'air d'affreux pourtant, d'un freloquet. Non, il peut bien avoir à cette heure 72 ans, répondit naïvement Madame Bearcot. Aussi, il est bien changé. Et l'on dit qu'il est devenu raisonnable et que sa fille aînée est rangée qu'un homme. Que c'est surprenant de la part de gens qu'on croyait disposés à tout avaler dans un jour. Peste, c'est l'âge de s'abonder, reprit Volabou. 72 ans, excusez. Le jeune homme a dû mettre de l'eau dans son vin. Les époux Volabou, voyant que j'avais fini de manger, commencèrent à se desservir, et je m'approchai du feu où je retins la mère Péricote pour la faire encore parler. Mais je n'aurais pourtant pas su dire pourquoi l'histoire des Valmas excitait à ce point ma curiosité. Chapitre 8. Le sabbat. Et les deux jeunes demoiselles, dis-je à ma vieille hôtesse, vous les connaissez? Non, monsieur, je n'ai fait encore que des apercevoir. Il n'y a qu'une quinzaine qu'elles sont ici, et le dernier jeune homme qui paraît avoir 15 ans tout au plus est arrivé avant-hier au soir. Ce qui veut dire dans le village que c'était peut-être pas le dernier et qu'on ne sait pas où s'arrêtera la famille de monsieur le marquis. Chacun dit son mot là-dessus. Faut bien rire un peu pour se consoler de ne rien savoir. Le nouveau marquis a donc les mêmes habitudes de mystère que l'ancien. Mais c'est à peu près la même chose. C'est même encore pire puisque ce qu'il a fait et ce qu'il a fait durant tant d'années qu'on ne l'a pas vu. Il a sans doute intérêt à le cacher, plus encore que feu monsieur son frère. Mais pourtant, c'est pas le même homme. On commence à me croire quand je dis que celui-ci vaut mieux, et on lui rendra justice plus tard. L'autre, il était sec de cœur comme de corps. Celui-là est un peu brusque de manière et n'aime pas non plus les longs discours. Il ne se fie pas au premier venu. On dirait qu'il connaît tous les tours et toutes les ruses de ceux qui quémandent, mais il s'informe, il consulte. Sa fille aînée le fait avec lui. Et les secours arrivent sans bruit à ceux qui ont vraiment besoin. Monsieur le curé a bien remarqué cela, lui qui s'affligeait tant lorsqu'il a vu venir ce prétendu mauvais sujet. Il commence à dire que les pauvres gens n'ont pas perdu au change. Et voilà qui s'explique, Madame Percotte. Et l'histoire gagne en moralité ce qu'elle perd en merveilleux. Cela se résume en un vieux proverbe de votre connaissance sans doute. Les mauvaises têtes font les bons cœurs. Vous avez bien raison, monsieur, et c'est triste à dire. Les trop bonnes têtes font souvent les cœurs mauvais. Qui ne pense qu'à soi n'est bon qu'à soi. Il ne reste pas moins du merveilleux dans cette maison-là. De tout temps, il s'est passé au château des désertes des choses que le pauvre monde comme moi peut pas comprendre. D'abord, on dit que tous les Balmas sont sorciers de père en fils. Et l'on me dirait que l'aînée des demoiselles en tient, que ça ne m'étonnerait pas, car elle parle pas et n'agit pas comme tout le monde. Elle ne va pas du tout vêtue selon son rang. Elle ne porte ni plume à son chapeau, ni cachemire, comme les dames riches du pays. Elle a la figure si blanche qu'on dirait qu'elle est morte. Et les deux autres demoiselles, un peu plus élégante et paraissent plus gaies. Mais l'aîné des jeunes gens a l'air d'un vrai fou. On l'entend parler tout seul et on le voit faire des gestes qui font peur. Quant à monsieur le marquis, tout charitable qu'il est, il a l'air bien malin. Enfin, monsieur, vous me croirez si vous voulez, mais les domestiques du château ont peur et sont fort aises qu'on les renvoie à 7 heures du soir. En leur permettant d'aller faire la veillée et coucher dans le village où ils ont tous leur famille, car ce marquis n'a amené avec lui aucun serviteur étranger qu'on puisse faire parler. Tous ceux qui sont employés au château sont pris à la journée parce qu'on a renvoyé tous les anciens. Cela fait que pendant 12 heures de nuit, personne ne peut savoir ce qui se passe dans la maison. Et pourquoi suppose-t-on qu'il s'y passe quelque chose? Peut-être que ces Balmats sont tout simplement de grands dormeurs qui craignent le bruit de l'office. Oh que non, monsieur, ils ne dorment pas. Ils s'en vont dans tout le château, montant, descendant, traversant les vieilles galeries, s'arrêtant dans les chambres qui n'ont pas été habitées depuis 100 ans peut-être. Ils remuent les meubles, les transportent d'un coin à l'autre, parlent, crient, chantent, rient, pleurent, se disputent. On dit même qu'ils se battent, car ils font là-dedans un sabbat désordonné. Mais comment sait-on tout cela, puisqu'ils renvoient tout le monde de si bonne heure? Oui, ils s'enferment, ils barricadent tout, porte et contrevent, après avoir fait la ronde pour s'assurer qu'on ne les espionne pas. Le fils du jardinier, qui s'était caché dans une armoire par curiosité, a manqué à être jeté par les fenêtres, et il a eu une si grosse peur qu'il en était malade, car il prétend que ces messieurs et ces demoiselles, et même monsieur le marquis, étaient 13 tous habillés en diable, et que cela faisait dresser les cheveux sur la tête de les voir ainsi, et de leur entendre dire des choses qui ressemblaient à rien. À la bonne heure, madame Percote. Voici qui commence à m'intéresser. Les vieux châteaux où il ne se passe pas des choses diaboliques ne sont bons à rien. Oh, vous riez, monsieur. Vous croyez pas à cela? Eh bien, si je vous disais que j'ai été écouté le plus près possible avec ma fille et que j'ai vu quelque chose. Bien, voyons, contez-moi cela. Nous avons vu, à travers les fentes d'un vieux contrevent qui ne ferme pas aussi bien que les autres, et qui donne ouverture à l'ancienne salle des gardes du château, des lumières passées et repassées si vite qu'on eût dit que des diables seuls pouvaient les faire courir ainsi sans les éteindre. Et puis, nous avons entendu le bruit du tonnerre et le vent siffler dans le château, quoiqu'il fût une belle nuit de gelée, bien tranquille comme ce soir. Un grand cri est venu jusqu'à nous, comme si l'on tuait quelqu'un, et nous n'avions pas une goutte de sang dans les veines. Oh, c'était la semaine dernière, monsieur. Alors nous nous sommes sauvés, ma fille et moi, parce que nous doutions pas qu'un crime n'eût été commis, et nous ne voulions pas être appelés comme témoins. Cela fait toujours du tort à de pauvres gens comme nous de témoigner comme devraient les riches. On s'en aperçoit plus tard. Si bien que nous n'avons pu fermer l'œil de toute la nuit, mais le lendemain, tout le monde se portait bien dans le château. Les demoiselles riaient et chantaient dans le jardin comme à l'ordinaire, et monsieur le marquis a été à la messe, car c'était un dimanche. Seulement, les domestiques nous ont dit qu'ils avaient brûlé dans la nuit plus de 50 bougies et que tout le souper avait été mangé jusqu'au dernier os. Ah, ah, mais il me paraît qu'ils fêtent joyeusement le diable! Tous les soirs, un bon souper de viande froide avec des gâteaux, des confitures et des vins fins leur est servi dans la salle à manger, en même temps qu'on dessert leur dîner. Bon, on ne sait pas à quelle heure ni avec quels convives ils le mangent, mais ils ont affaire à des esprits qui ne se nourrissent pas de fumée. Et le matin, on trouve les fauteuils rangés en cercle autour de la cheminée du grand salon. Et dans tout le reste de la maison, il n'y a pas trace du remue-ménage de la nuit. Cependant, il y a toute une partie du château, celle qu'on n'habite plus depuis longtemps, qui est fermée et cadenassée de façon à ce que personne ne puisse y mettre le bout du nez. Ils ont, au reste, fort peu de domestiques pour une si grande maison et tant de maîtres. Ils n'ont encore reçu personne, si ce n'est le maire et le curé, lesquels ont vu seulement monsieur le marquis dans son cabinet, sans qu'aucun de ses enfants ait paru, excepté sa fille aînée. Les demoiselles n'ont pas de fille de chambre et semblent tout aussi habituées que les messieurs à se servir elles-mêmes. Le service intérieur est fait aussi par des femmes de journée que l'on congédie quand elles ont balayé et rangé. Et vous savez, monsieur, les hommes sont si simples. Quand il n'y a pas de femme au courant des affaires d'une maison, on ne peut rien savoir. C'est vraiment désespérant, ma chère madame Percote, dis-je en retenant une bonne envie de rire. Oui, monsieur, oui. Oh, si j'étais plus jeune et si je ne craignais pas d'attraper un rhumatisme en faisant le guet,
je saurai bientôt à quoi m'en tenir. Par exemple, ces jours derniers, la servante qui a fait les lits a trouvé au pied de celui d'une des demoiselles des pantoufles dépareillées. On a beau se cacher, on n'est jamais à l'abri d'une distraction. Eh bien, monsieur, devinez-vous ce qu'il remet à la place de la pantoufle perdue durant le sabbat? Un gros crapaud vert avec des yeux de feu, ou bien un fer de cheval qui a brûlé les doigts de la pauvre servante? Non, monsieur, un joli petit soulier de satin blanc avec un nœud de beaux rubans roses et or. Diantre, cela sent le sabbat bien davantage. Il est évident que ces demoiselles avaient été au bal, sur un manche à balai. Peu chez le diable ou ailleurs, il y avait eu bal aussi au château, car on avait justement entendu des airs de danse, et les parquets s'en ressentaient, mais quels étaient les invités et d'où sortait le beau monde? Car on n'a vu ni voiture ni visite d'aucune espèce autour du château. Et à moins que la bonne joyeuse ne soit descendue et remontée par les tuyaux de cheminée, je vois pas pour qui cette demoiselle ont mis des souliers blancs à nœuds d'or et or. J'aurais écouté Madame Péricot toute la nuit, tant ses contes me divertissaient. Mais je vis que mes hôtes désiraient se retirer, et je leur en donnais l'exemple. Volabue me conduisit à sa meilleure chambre et à son meilleur lit. Sa femme m'accabla aussi de 1000 petits soins, et ils me quittèrent après s'être assurés que je ne manquais de rien. Volabue me demanda au travers de la porte à quelle heure je voulais partir pour Briançon. Je le priai d'être prêt à 7 heures du matin, ne voulant pas être à charge plus longtemps à sa famille. Je n'avais pas la moindre envie de dormir, car il n'était que 7 heures du soir et j'avais 12 heures devant moi. Un bon feu de sapin pétillait dans la cheminée de ma petite chambre et une grande provision de branches résineuses placées à côté me permettait de lutter contre la froide bise qui sifflait à travers les fenêtres mal jointes. Je pris mes crayons et j'esquissai les deux jolies figures des demoiselles de Balma dans le costume et les attitudes où elles m'étaient apparues, sans oublier le beau lévrier blanc et le cadre des grands cyprès noirs couverts de flocons de neige. Tout cela trottait encore plus vite dans mon imagination que sur le papier, et je ne pouvais me défendre d'une émotion analogue à celle que nous fait éprouver la lecture d'un conte fantastique d'Hoffmann. En rapprochant de ces charmantes figures, si candide, si enjouée, si heureuse en apparence, les récits bizarres et les diaboliques commentaires de ma vieille hôtesse. Ainsi que dans ces contes germaniques, où des anges terrestres luttent sans cesse contre les pièges d'un esprit infernal pétri d'ironie, de colère et de douleur, je voyais ces beaux enfants fleurir à leur insu, sous l'influence perfide de quelques vieux alchimistes couverts de crimes, qui les élevaient à la brochette pour vendre leurs âmes à Satan, afin de dégager la sienne d'un pacte fatal. La petite ne se doutait de rien encore, l'autre commençait à se méfier. Au milieu de leur gaieté railleuse, il m'avait semblé voir percer de la crainte pour un maître qu'elle n'avait pas osé nommer. « Qu'il grogne, le grognon, avait-elle dit. Et puis encore, en parlant de ma traversée périlleuse sur le fossé, l'aîné avait dit « S'il voyait cela, il nous gronderait. » Était-ce leur père qu'elle redoutait ainsi, tout en affectant de se moquer? Rien ne prouvait qu'elles fussent les vieux filles de ce vieux marquis, ressuscité par magie, après avoir passé pour mort, que dis-je, après avoir été mort, probablement, pendant 50 ans. Ce devait être un vampire. Il les tourmentait déjà toutes les nuits, mais chaque matin, grâce à sa science, elles avaient perdu le souvenir de ce cauchemar et tâchaient de se reprendre la vie. Hélas, elles n'en avaient pas pour longtemps, les pauvrettes.
Un matin, on les trouverait étranglés dans quelque gargouille de vieux manoir. À ces folles rêveries, quelques indices réels venaient pourtant se joindre. Je ne sais ce que les nœuds de ruban venaient faire là-dedans, mais le ruban rose et or du petit soulier coïncidait, je ne sais comment, avec le nœud de ruban cerise que j'avais ramassé. Son nœud, avait-elle dit, son nœud d'épée. Mais qui donc, dans le château, portait encore le costume de nos pères, l'épée, le nœud d'épée? Cela était vraiment bizarre, et il l'avait fait lui-même. Il prétendait que ses charmantes petites mains de fée ne savaient pas faire un nœud digne de lui. Il était donc bien impérieux et bien difficile, ce tyran de la jeunesse et de la beauté. Qu'il fût jeune ou vieux, ce porteur d'épée, ce faiseur de nœuds, il était peu galant ou peu paternel. Ce ne pouvait être que le diable ou l'un de ses suppôts rechignés. Je ne sais combien de bizarres compositions me vinrent à ce sujet, mais je ne les exécutais point. La mère Péricote m'avait soufflé le poison de sa curiosité, et je ne tenais pas en place. Il me sembla qu'il était fort tard, tant j'avais fait de rêves en peu d'instants. Ma montre s'était arrêtée, mais l'horloge du hameau sonna 9 heures. Je m'inquiétais du reste de ma nuit, car je n'avais plus envie de dessiner. Il m'était impossible de lire, et je mourais d'envie d'agir comme un écolier, c'est-à-dire d'aller chercher quelque aventure poétique ou ridicule sous les murs du vieux château. Je commençais par m'assurer d'un moyen de sortie qui ne fît ni bruit ni scandale, et je l'eus trouvé avant d'être décidé à m'en servir. Les contrevents de ma fenêtre ouvraient sans crier et donnaient sur un petit jardin clos seulement d'une haie vive fort basse. La maison n'avait qu'un étage de niveau avec le sol. Cela était si facile et si tentant que je n'y résistais pas. Je me munis d'un briquet, de plusieurs cigares, de ma canne à pêche plombée. Je cachai ma figure dans un grand foulard. Je m'enveloppai de mon manteau et, pour me déguiser mieux, je décrochai de la muraille une espèce de chapeau tyrolien appartenant à M. Volabou. Puis je sortis de la maison par la fenêtre. Je poussais les contrevents, j'enjambais la haie. La neige absorbait le bruit de mes pas. Tout dormait dans le village. La lune brillait au ciel. Je gagnais la campagne, rien qu'en faisant à l'extérieur le tour de la maison. J'arrivais au fossé que je connaissais déjà si bien. La nuit avait raffermi la glace. Je montai, non sans peine, le petit escalier qui était devenu fort glissant. J'entrai résolument dans le parc et j'approchai du château comme un alma viva préparé à toute aventure. Je touchai aux portes vitrées du rez-de-chaussée donnant toutes sur une longue terrasse couverte de vignes desséchées par l'hiver qui ressemblait dans la nuit à de gros serpents noirs courant sur les murs et se roulant autour des balustres. J'avais monté, sans hésiter, l'escalier bordé de grands vases de terre cuite qui entaillaient noblement le perron sur chaque face. Tous les volets étaient hermétiquement fermés. Je ne craignais pas qu'on me vide l'intérieur. Je voulais écouter ces bruits étranges, ces cris, ces roulements de tonnerre, ces meubles mis en danse, cette musique infernale dont ma vieille hôtesse m'avait rempli la cervelle. Je ne fus pas longtemps sans reconnaître qu'on agissait énergiquement dans cette demeure silencieuse et déserte au dehors. De grands coups de marteau résonnaient dans l'intérieur et des éclats de voix comme de gens qui dissentent ou s'avertissent en travaillant frappèrent confusément mon oreille.
Tout cela se passait fort près de moi, probablement dans une des pièces du rez-de-chaussée, mais les contrevents en plein chêne, rembourrés de crins et garnis de cuir, ne me permettaient pas de saisir un seul mot. Les aboiements d'un chien m'avertirent de me tenir à distance. Je descendis le perron et bientôt j'entendis ouvrir la porte que je venais de quitter. Le chien hurlait, je me crus perdu, car le clair de lune ne me permettait pas de franchir l'espace découvert qui me séparait des premiers massifs. « Ne laisse pas sortir Hécate !» dit une voix que je reconnus aussitôt pour celle de la plus jeune de mes deux héroïnes. « Elle est folle au clair de la lune, et elle casse tous les vases du perron. « Rentrez, Hécate !» dit l'autre dont je reconnus aussi la voix. Elle ferma la porte au nez de la grande levrette, qui les avertissait de ma présence et gémissait de n'être pas comprise. Les deux jeunes filles s'avancèrent sur le perron. Je me cachai sous la voûte qu'ils formaient entre les deux escaliers latéraux. « Ne mets donc pas ainsi tes bras nus sur la neige, petite, tu vas t'enrhumer, » disait l'aînée. « Mais qu'as-tu besoin de t'appuyer sur la balustrade ?»« Je suis fatiguée, je meurs de chaud. Alors en ce cas, rentrons. Non, non, c'est si beau la nuit, la lune et la neige. Ils en ont au moins pour un quart d'heure. Arrangez le cimetière, respirons un peu. » Le cimetière me fit ouvrir l'oreille. La nuit sonore me permettait de ne pas perdre une de leurs paroles, et j'allais saisir le mot de l'énigme, lorsque quelqu'un de l'intérieur, ennuyé des cris du chien, ouvrit la porte et laissa passer la maudite bête, qui s'élança jusqu'à moi et s'arrêta à l'entrée de la voûte, indignée de ma présence, mais tenue en respect par la canne dont je la menaçais. « Oh, qui sont ennuyeux d'avoir lâché Hécate !» disait tranquillement ces demoiselles, pendant que j'étais dans une situation désespérée. « Ici, Hécate, tais-toi donc, tu fais toujours du bruit pour rien. Mais comme elle est en colère, c'est peut-être un voleur, » dit la petite. « Est-ce qu'il y a des voleurs ici ?» me cria l'aîné en riant. « Monsieur le voleur, répondez !» « Ou bien c'est un curieux, » ajouta l'autre. « Monsieur le curieux, vous perdez votre temps, vous vous enrhumez pour rien, vous ne nous verrez pas. À toi, Hécate, mange-le. » Hécate n'eut pas demandé mieux si elle eût osé. Bruyante mais craintive, comme le sont les levrettes, elle reculait, hérissée de colère et de peur, quoiqu'il fût de taille à m'étrangler. « Bah, ce n'est personne, » dit l'une des demoiselles. Elle crie après la statue qui est là, au fond de la grotte. Et si nous allions voir? Oh, mais enfin, non, j'ai peur. Bon, et moi aussi, allez, rentrons. Ben, appelons nos garçons. Oh, bien oui, oh, ils ont bien autre chose en tête. Et ils se moqueront de nous comme à l'ordinaire. Bon, il fait froid. Allez, allons-nous-en. Il fait peur. Allez, sauvons-nous.
Elles rentrèrent en rappelant la chienne. Tout se referma hermétiquement, et je n'entendis plus rien pendant un quart d'heure. Mais tout à coup, les cris d'une personne qui semblait frappée d'épouvante retentirent. On parla haut, sans que je pusse distinguer ni les paroles ni l'accent. Il y eut encore un silence, puis des éclats de rire, puis plus rien. Et je perdis patience, car j'étais transi de froid, et la maudite levrette pouvait me trahir encore pour peu qu'on eût le caprice de venir poser de jolis petits bras nus sur la neige de la balustrade. Je regagnai à la maison Volabu, certain qu'on ne m'avait pas tout à fait trompé, et qu'on travaillait dans le château à une œuvre inconnue et inqualifiable, mais un peu honteux de n'avoir rien découvert, sinon qu'on arrangeait le cimetière et qu'on se moquait des curieux. La nuit était fort avancée quand je me retrouvais dans ma petite chambre. Je passai encore quelque temps à rallumer mon feu et à me réchauffer avant de pouvoir m'endormir, si bien que, lorsque Volabu vint pour m'éveiller avec le jour, il n'osa le faire tant je m'acquittais en conscience de mon premier somme. Je me levai tard. Il avait eu le temps de me préparer mon déjeuner, qu'il fallut accepter sous peine de désespérer le brave homme, et Madame Volabu, qui avait des prétentions assez fondées au talent des cuisinières. À midi, une affaire survint à mon hôte. Il était prêt à y renoncer pour tenir sa parole envers moi. Mais moi, sans me vanter de mon escapade, j'avais un fiasco sur le cœur, et je me sentais beaucoup moins pressé que la veille d'arriver à Briançon. Je priai donc mon hôte de ne pas se gêner, et je remis notre départ au lendemain, à la condition qu'il me laisserait payer la dépense que je faisais chez lui, ce qui donna lieu à de grandes contestations, car cet homme était sincèrement libéral dans son hospitalité. Il eut discuté avec moi pour une misère durant le voyage, si j'eusse voulu marchander, mais chez lui, il était prêt à mettre le feu à la maison pour me prouver son savoir-vivre.